On va ouvrir le Saint-Livre, s'il vous plaît. Alors, nous ne nous sommes pas concertés avec Jonathan Guyot par rapport au texte qu'il a pris, mais quand même, le texte que je vais prendre complète bien ce qu'il a dit. Dans l'évangile de Marc, là, c'est au chapitre... Alors, 8. Dans le chapitre 8 de Marc, il y a une je ne sais pas comment, quel nom vous lui donneriez-vous. Allez, vous allez m'aider. Vous pouvez m'aider? Allez, ce matin, j'ai affaire qu'à des pasteurs stagiaires. D'accord? Alors, Marc, chapitre 8, verset 15. Alors, c'est dit, mais en fait, on peut peut-être l'arranger. Regardez, Marc 8, verset 15, Jésus leur fit une recommandation. Dans la Bible, il y a des recommandations. C'est important de voir tout ce qu'il y a dans la Bible. Certains, vous ne l'auriez jamais dit, ça. Il y a des recommandations. Une recommandation, ça peut être un avertissement. C'est tout ce que Jésus a dit est important. Il fait une recommandation aux disciples, donc à ses enfants. Quelle est cette recommandation? Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Voilà. Eux, ils ont cru que c'était par rapport au pain, mais je peux vous assurer qu'on va mieux comprendre cette recommandation après la lecture de Luc, chapitre 15. Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue. Vous la connaissez, une parabole, c'est une image terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. C'est Jésus qui la donne, on en a besoin. On l'utilise à 99% pour l'évangélisation. Mais laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas que pour l'évangélisation. Luc 15, versets 11 à 32. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle pour expliquer certaines choses par rapport à ce qui se passe entre le Père, c'est-à-dire Dieu, et ses enfants. Jésus leur dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, au verset 2, c'est peut-être bien de voir à qui Jésus s'adresse. Aux pharisiens et aux scribes qui murmuraient. On pourrait lire peut-être un autre texte en opposition. C'est bien des fois de mettre en opposition deux comportements. Dans Hébreux chapitre 11, il y a le témoignage d'Enoch. C'est bien, parfois, moi, j'aime pas comparer les gens, parce que c'est une chose qui est pas bonne. Mais dans la Bible, on peut comparer le comportement de certaines personnes pour mettre en avant le fait qu'ils ont vécu ou non par la foi. Hébreux 11, verset 5, gardez-la, Luc 15. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Donc deux hommes en opposition. Enoch, qui rend un témoignage, qui a reçu le témoignage de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il marchait par la foi. Mes frères et sœurs, je ne parlerai pour ainsi dire pas dans la prédication, mais en vérité, c'est pour que nous comprenions si oui ou non, nous vivons dans le repos. Toute cette prédication va être amenée pour que nous comprenions pourquoi certains chrétiens n'entrent jamais dans le repos. Enoch, il marche par la foi, il a confiance en Dieu, donc il est dans le repos. La preuve, il va être enlevé. Le frère aîné dans la parabole représente les chrétiens qui n'ont pas officiellement rétrogradé. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Parce qu'il est très facile, très 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 facile, de juger les gens qui sont partis. N'oubliez pas, je le répète, que Dieu s'adresse à des pharisiens et à des scribes qui étaient au top de la religion. Ce frère aîné, lui, il est là, il est resté dans la maison, il n'a pas rétrogradé officiellement, mais enfin, il est malheureux. Il représente tous les chrétiens qui sont malheureux dans l'Église. La lecture le prouve. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle d'une catégorie de chrétiens qui sont malheureux, qui se mettent en colère lorsque un fils prodigue revient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état d'esprit dans lequel des chrétiens peuvent se trouver, se mettre en colère parce qu'un rétrograde revient. C'est sûr que c'est facile de juger quand on n'a jamais quitté l'Église. Enfin, je sais, ce que je dis, ce n'est pas la vérité. C'est une pensée. C'est peut-être plus facile de juger. Mais dans quel état d'esprit était-il ? N'oublions pas que Jésus, pour nous enseigner, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous permettre de rester fidèles, a laissé des paraboles pour que nous ne fassions pas certaines erreurs. Des erreurs, ce qu'on appelle des erreurs de jugement. Le fils prodigue a fait une erreur de jugement. Bien sûr, tous les gens qui abandonnent la maison du Père font tous une erreur. C'est sûr et certain. Mais il n'y a pas que le fils prodigue qui était loin de son Père. Le frère aîné qui était dans la maison était également loin de son Père. La preuve. Et on ne peut pas mettre la faute sur le Père. Vous savez, mes frères et sœurs, une chose qui nous aidera, c'est de ne jamais mettre la faute sur Dieu. Parce que se mettre en colère contre un frère, bon, c'est une chose, on va voir, c'est la vie. Mais se mettre en colère contre Dieu, c'est vraiment le comble de la stupidité. Se mettre en colère contre le Père. Se mettre en colère contre Dieu. Parce qu'on ne comprend pas certaines choses qui peuvent se passer ou qui peuvent se produire. Le problème ne viendra jamais de Dieu. Oui, le fils aîné, il était toujours fidèle, c'est vrai. Il était toujours fidèle puisqu'il était resté à la maison. Mais ce texte nous prouve qu'il n'avait pas de communication avec son père. Et mes frères et sœurs, c'est le premier point. Nous pouvons être dans la maison de Dieu. Nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Nous pouvons faire partie du corps de Christ et ne pas avoir de communion avec le Père. C'est un des premiers enseignements de cette parabole. Être dans la maison, rester dans la maison de Dieu et ne pas avoir de communion avec le Seigneur. Vous savez, le deuxième enseignement, c'est qu'on peut être à côté de quelqu'un qui est merveilleux, puisque le Père représente Dieu. Le Père représente quelqu'un de bon, quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'accueillant, etc. On ne va pas faire la liste. Mais dans cette parabole, bien sûr, le Père représente Dieu. Et malgré le fait que ce Père est rempli d'amour et de compassion, le Fils n'est pas du tout imprégné par cet amour. Ce n'est pas parce que vous vivez à côté de quelqu'un de spirituel que vous allez devenir spirituel. Ça, c'est le deuxième enseignement. Ne nous imaginons pas, mes frères et sœurs, parce que votre conjoint, ou parce que vos enfants, ou parce que vos parents sont spirituels, que vous le deviendrez automatiquement. C'est pour ça que Jésus a pleuré, Jonathan le rappelait dans la présentation de la Sainte-Cène. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Être à côté de Dieu, être dans la maison de Dieu, être dans une église, quelle que soit la dénomination, parce que là aussi on va voir que c'est certainement pas très intelligent de se comparer aux autres religions. Croyez-moi, vraiment pas intelligent. C'est le défaut de la religion, ça. N'oublions pas qu'un vrai chrétien, il n'est pas dans la religion. Un chrétien, il est ou il n'est pas dans la grâce de Dieu. Le fils aîné, il est là. Il a tout le temps fait, il le dit, moi j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai jamais transgressé tes ordres. On pourrait dire, mais quel fils ? Et pourtant il est étranger à cet amour. Parce que dans cette parabole, même si ce n'est pas tout le monde qui s'en rend compte, on ne voit pas d'amour de la part du fils qui n'a pas abandonné la maison. Il n'y a aucun amour. Il est là, mais il n'a pas de communion, donc il n'a pas d'amour pour son frère et même pas pour son père. Même pas pour son père. Parce que les épreuves sont révélatrices. Toutes les épreuves sont révélatrices. Qu'est-ce que vous pensez si vous étiez tous des stagiaires, et si je vous disais maintenant, qu'est-ce que vous pensez du frère aîné? Qu'est-ce que vous pensez de son attitude? Qui est-il en vérité pour vous? Est-ce que c'est un fils? Est-ce qu'il se comporte comme un fils? Est-ce qu'il se comporte comme un employé, comme un serviteur, comme un esclave? Son frère revient, il l'apprend par un serviteur, il ne rentre pas, il se met en colère. Il reste dehors, il ne veut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est cette mentalité? Vous allez me dire, non mais monsieur Gou, cette prédication, elle n'est pas pour nous, monsieur Gou. Nous, on n'en est pas là. Est-ce que la recommandation que Jésus a faite aux disciples, c'est une recommandation, c'est un avertissement? Gardez-vous avec soin. En plus, il ajoute avec soin. Il ne dit pas gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin. Avec soin, ça veut dire soyez attentifs. Que cette mentalité religieuse ne rentre pas au milieu de vous. Être en colère. Alors, être en colère. Bon, la colère, c'est vrai qu'on peut parler de la colère avec ce texte. La colère, tiens donc. Notre sœur, Madame Fata, priait avant que le culte commence. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de sa prière. Elle a dit, Seigneur, donne-nous du discernement. Vous vous rappelez, madame Bada? Et je pensais, bien sûr, à la prédication. Quand on chante, je pense à des choses qui me rappellent à la prédication. Est-ce que, franchement, mes frères et sœurs, on est devant Dieu, on ne se réunit pas pour faire un culte de plus, on se réunit pour grandir dans la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu. Déjà, la colère, tiens donc. Je me mets en colère. Ça peut venir de quoi? Est-ce que, par exemple, quelqu'un d'épuisé, parce que je suis fatigué, ou vraiment fatigué, je peux me mettre en colère plus facilement parce que... Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que cette colère est dramatique? Ben non. Vous voyez ce que je veux? Ben quand même. Attention, hein, de ne pas tout spiritualiser. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il y a des colères qui sont de l'irritation excessive, etc. On n'a pas le sentiment que certaines colères sont dangereuses. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà, il faut le régler. Je te demande pardon, je me suis irrité parce que tu es toujours désordonné. Voilà. Je te demande pardon. Voilà. Je suis fatigué en ce moment. Je te demande pardon. Ça, c'est des collègues. Il ne faut pas tout mélanger, mes frères. Vous savez, on a vite fait de culpabiliser les gens. Il faut faire attention. Moi, vous savez, ça me travaille tout ça. Ça me travaille pourquoi ? Parce que je sais que Jésus-Christ va revenir et que beaucoup de chrétiens ne veillent pas. Ce frère aîné, n'oublions pas, c'est Jésus, notre sauveur, notre maître, qui parle. Il parle à des pharisiens qui ne vont pas bien du tout, qui se croient les meilleurs. Et il est en train de les enseigner à eux aussi. Parce que la religion, je peux vous dire, ça vous projette dans l'orgueil. C'est obligé. La colère, ça peut être aussi, quand vous voyez certains hommes de Dieu, ce matin, hier, je pensais à des hommes qui sont irrités. Tiens, on en a parlé mardi, Caïn s'est mis en colère, quand Dieu lui dit, mais tu sais le sacrifice que tu m'as offert, je ne l'approuve pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fâché, il s'est irrité, vous connaissez le texte ? Il a été abattu, bon l'abattement ça arrive, tout le monde peut être abattu. Le don spirituel qu'on a entendu nous rappelle qu'il y a des jours difficiles. Il y a des jours où on est abattu. Est-ce que c'est normal ? Mais oui, c'est normal. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu ? On voit bien que c'est la vie. Il y a des abattements, on le règle, pardon Seigneur, je vais développer un esprit de louange, point. Bon, ça dure 5 minutes, ça dure 2 heures. Mais quand vous voyez que l'irritation peut vraiment se transformer dans une colère excessive, et vous voyez... C'est intéressant de voir dans la Bible. Je ne sais pas comment vous étudiez la Bible, parce que quand même, la Bible dit « Heureux celui qui médite ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire, pas celui qui lit. Celui qui médite. Tiens, pourquoi il s'est mis en colère le roi Ozias ? Tiens, pourquoi il s'est mis en colère le roi Ozias ? Pourquoi il s'est mis en colère Saül ? Et là, vous voyez qu'on n'est plus dans la fatigue et l'épuisement. Vous voyez qu'on est dans la rébellion contre Dieu. Et là, quand on en arrive à la rébellion contre Dieu, laissez-moi vous dire que c'est vraiment pas bon signe. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le repos. En vérité, c'est une prédication sur le repos, je le répète. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans le repos parce qu'ils sont dans un mauvais état d'esprit. Et même si on pouvait dire, on dit le fils prodigue, mais moi, franchement, j'ai un autre titre à donner à la parabole. J'ai un autre titre à donner. Vraiment et sérieusement. Dans quel état d'esprit il est ? Est-ce que le fils prodigue pouvait connaître le repos ? Non, c'est impossible. Il y a un état d'esprit qui peut se développer dans les chrétiens. Et je le dis puisque Jésus a dit, je vous avertis, prenez soin du levain des pharisiens, c'est-à-dire de la religion. Comment je sers Dieu au fait ? Comment je le sers ? Je suis dans la maison, c'est vrai que quand on est dans la maison, il y a du travail. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand on est chrétien, on entre dans un travail, on entre dans des œuvres que Dieu a préparées à l'avance, etc. Et qu'il y a des choses que le Père a préparées. C'est dit qu'on est son ouvrage et que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Voilà. Mais dans quel état d'esprit ? Je fais ce que Dieu me demande. Tiens, Dieu me demande de faire des visites. Comment je les fais, ces visites ? Est-ce que c'est un ordre ? Fais les visites ? Ou est-ce que c'est une grâce de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu ? Est-ce que c'est une grâce de travailler à cet investissement ? D'autant plus que il y a des récompenses. Quand on fait quelque chose, je sais qu'il y a des églises, je le sais parce que même ici c'est arrivé au début quand je suis arrivé. Un jour, j'avais prêché sur les repentances, il y a 2 sœurs qui me sont tombées dessus, bon, elles ne sont plus là. Monsieur Gault, ce n'est pas la peine que vous parliez sur les récompenses, on n'en a pas besoin, le salut, ça suffit. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, si la Bible en parle, c'est qu'on en a besoin. Il ne faut pas jouer la comédie. Si Dieu parle des récompenses, c'est qu'on en a besoin. Oui ou non ? Mais dans quel état d'esprit je fais ? Parce que ça aussi, ce n'est pas le sujet de la prédication. Mais quand même, on comprend que Dieu... puisse donner des ordres. D'ailleurs, tes ordres réjouissent mon cœur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? On voit que dans la Bible, il y a des paroles, mais comment on les considère ? Les ordres, les ordonnances, les invitations de notre Père. C'est sûr que quand il était là, vous voyez, même le fils prodigue, on ne va pas parler de lui, du brave fils prodigue qui revient. Mais vous voyez, cette mentalité, quand il dit, bon, il prépare son petit discours, il sait qu'il va vouloir rencontrer son père, et il dit, voilà, je vais rentrer à la maison, je vais dire à mon père que j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme l'un de tes... Vous voyez, c'est malheureux, mais ça nous prouve qu'on a du mal à être des fils, des serviteurs, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, mais pas comme un ouvrier, un serviteur, c'est beaucoup plus bas encore. Pourquoi je dis ça? Il y a du travail, c'est vrai que dans une ferme, il y a du travail. Oui ou non? Vous avez déjà travaillé dans une ferme? Dans une ferme, il y a du travail. Un jour, c'est les clôtures qu'il faut réparer. Un jour, c'est les veaux qu'il faut changer de pâturage. Un jour, il faut aller labourer. Un jour, il faut aller ferrer les bœufs. Vous savez ce que ça veut dire, ferrer les bœufs? Je suis sûr qu'il y en a... Comment? Bien, les vieux, vous savez. Hein, mettre des fers aux bœufs, etc. Un jour, il faut rentrer le fourrage. Il y en a des choses. Un jour, il faut construire un poulailler. Un jour, il y a plein de choses à faire dans une ferme. Et il le faisait. Voici tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé tes ordres. Demain, tu peux aller réparer les abreuvoirs, s'il te plaît? Non, oui, je le fais, il faut le faire, je le fais. Mais ne réalisez pas que quand on fait... Écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. Quand dans l'Église, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Parce que si certains ne font pas valoir les talents, c'est parce que vous êtes très proche du fils aîné. Si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est aussi pour nous. C'est pour notre bien, parce que dans une maison, quand un fils travaille pour le père, il travaille aussi pour lui. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Et si vous êtes paresseux ou feignant, je sais qu'il y en a, il y en a. Moi je vous le dis, je suis votre pasteur, je suis là pour vous aider, vous encourager, vous reprendre, vous donner des recommandations, etc. Je peux me permettre de m'adresser à ceux qui sont dans ce cas de figure où vous ne faites peut-être rien pour Dieu. Vous êtes en grand danger. En grand danger. Vous n'avez pas compris certaines choses. Dieu vous a donné un talent, c'est sûr, ou plusieurs, c'est certain. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous vous appliquez à les connaître? Et je peux vous dire que si j'ai proposé tout à l'heure dans les annonces qu'on fasse une semaine de jeûne et prière, eh bien c'est peut-être que pour aider tous les chrétiens de l'Église à dire « Tiens, mais c'est vrai, je suis en stand-by depuis un mois, depuis un an. Je suis là en roue libre, je viens le dimanche. » Et ce n'est pas une question de plus de présence ou moins. C'est une question de connaître la pensée de Dieu. Tiens, qu'est-ce que le Père veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et pas le faire parce que voilà, j'entends juste un ordre. Ah bon, mais je vais faire des visites. Monsieur, on va parler de visites. Tiens, ben, je vais faire des visites. Monsieur Catéco, il va faire un travail d'évangélisation. Eh ben, je ne fais rien. Ben, je vais rentrer dans un travail d'évangélisation. Non, mes frères et sœurs. Où j'en suis vraiment de ma communion avec Dieu? Parce que quand on ne comprend pas ce que l'on doit faire, c'est que l'on n'a pas de communion avec Dieu. Ça, c'est bon, quand même, je ne suis pas un théologien, mais c'est le minimum. Si le Seigneur me met à cœur ça, ou si Dieu me demande de faire quelque chose, parce que des fois, Dieu peut utiliser quelqu'un, Dieu peut utiliser un ancien, une diaconesse, pour vous dire, tiens, mais ma sœur, tu devrais peut-être t'investir dans l'Église, mais de quoi je me mêle? Mais mes frères et sœurs, est-ce que Dieu, pour vous aider, pour nous aider, peut utiliser un frère pour vous encourager à faire quelque chose? Mais bien sûr, et nous devrions faire très attention, et tout cela est flou par la communion avec Dieu, ou par la non-communion avec Dieu. Et c'est ce qui se passe dans cette parabole. Il ne pouvait pas comprendre, à cause de son mauvais état d'esprit, qu'il était aimé. Est-ce que ce matin, notre culte va terminer dans un quart d'heure, 20 minutes? Je vous pose cette question, je nous la pose. Parce que je suis avec vous. Est-ce que nous nous savons aimer? Pas nous nous sentons, parce que sentir, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous vous savez aimer de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Et que s'il permet qu'il y ait des églises, s'il permet qu'on ait sa maison, s'il permet qu'on se retrouve, c'est parce que Dieu nous aime. Et qu'il a des choses à nous dire ou à nous rappeler. Dans cette parabole, c'est sûr que dans le cœur du frère, on voit aucun amour. C'est terrible. Et je pense que le Seigneur l'a fait volontairement pour parler à ces pharisiens qui faisaient les choses pareillement, pour plaire à Dieu par les œuvres. On n'est pas aimé parce qu'on fait certaines choses. On est aimé inconditionnellement. Dieu nous aime. Si on fait des choses, tant mieux. Mais il ne faut pas que je dise, j'ai fait ça, oh, je vais faire davantage. Dieu m'aimera davantage. Si je fais davantage de visites, peut-être que Dieu m'aimera davantage. C'est ça la religion, c'est ça le levain des pharisiens. Gardons-nous de cette mentalité hypocrite en plus, parce que c'est de l'hypocrisie. C'est pas moi, j'ai pas le temps. Lisez les Galates, vous allez voir combien le levain est de l'hypocrisie. Les pharisiens, même si c'était des pharisiens, même si Jésus les a repris sévèrement, n'oublions pas quand même que c'est des gens qui voulaient, ils voulaient plaire à Dieu. Parce que bon, c'est vrai que les pharisiens, quand on prêche sur eux, les pauvres, ils chargent. Mais n'oublions pas quand même que c'était des gens qui voulaient plaire à Dieu. Ils voulaient vraiment plaire à Dieu. Mais vous ne plairez pas à Dieu parce que vous faites davantage ou plus que les autres. Dieu vous aime inconditionnellement. Vous avez vu quand Jésus a été arrêté, enfin c'est terrible, c'est dans le jardin de Gethsémané, par Judas, qu'est-ce qu'il a dit à Judas? Vous rappelez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mon ami, je ne sais pas si vous rendez compte. Jésus dit à Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et quand Jésus reprend Pierre qui lui a dit, attends, ça t'arrivera pas, ça c'est pas possible, tu vas pas mourir, non mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi, Satan. Réfléchissez. En tous les cas, une chose est sûre, le Seigneur sait ce qu'il a à nous dire. Et il l'a appelé mon ami, il lui a tendu la main parce qu'il l'aimait, une fois de plus. La question que je dois me poser, celle-ci, je suis d'accord avec ce qui est dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est grave. Je suis d'accord avec ce qui est dit, bon, est-ce que j'ai de l'amour pour mon frère, mon petit frère, qui est parti, qui va revenir? Est-ce que Dieu peut, par exemple, cet après-midi, mardi, dimanche prochain, dans sa puissance infinie, ramener 3 fils prodigues ou 5? Est-ce que Dieu peut le faire? Comment on va les accueillir? Ah, t'as un problème, hein? Tu reviens parce que t'as un problème. Hein? C'est pour ça que tu reviens, hein? Non, mais dites-moi que j'exagère. On l'a jamais vu, ça. On l'a jamais vu. Je dois me poser des questions par rapport à l'amour que j'ai pour les frères et sœurs que j'ai dans l'Église, pour le Père, pour mon Père spirituel, pour mon Père céleste. Est-ce que je réalise que je ne suis pas qu'un fils, je suis aussi un héritier? C'est écrit que si nous sommes fils, nous sommes héritiers, et si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Peut-être que ça ne vous intéresse pas tout ça, mais ça devrait nous intéresser. Et ce n'est pas de l'ambition, c'est de l'intelligence. Je dois comprendre ce que Dieu peut faire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut que je fasse. On devrait, si le Seigneur vous met à cœur certaines choses, faites-le. Vous savez, je me souviens de ce frère qui aujourd'hui est patron d'une boîte. Il était au chômage depuis 6 mois. C'est un chrétien, un brave chrétien. Puis sa jeune fiancée est morte à 20 ans. Ils allaient se marier. Il perd son emploi dans la foulée. Et il vient me voir, il me dit, voilà, je n'ai pas de travail, il est ingénieur, je n'ai pas de travail. Et il faut que je trouve du travail comme ingénieur. J'ai dit, attends, peut-être que Dieu va permettre un autre travail. Et pendant 6 mois, il a pris j'ai dit, prends le premier travail qui se présente. Et vous savez ce qu'il a fait? Pendant 6 mois, il a vendu des livres, vous savez, en faisant du démarchage. Des livres, vous savez, des encyclopédies, là. Le travail le plus intéressant qui existe. Et puis, au bout de 6 mois, il a trouvé comme ingénieur. Il y avait une salle remplie d'ingénieurs. Et ils l'ont pris à lui parce qu'il voulait un ingénieur qui avait fait un peu de commerce. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes les enfants du Seigneur, ce n'est pas parce que je suis ingénieur ou parce que je suis ceci ou parce que je suis cela que la volonté de Dieu, ça va passer par un même curseur. Ça peut être très différent. Et mes frères et sœurs, moi je vous le dis, je vous le dis avec cœur vraiment. Je le répète, pour ceux qui n'ont pas compris, le Seigneur Jésus va revenir. Et premièrement, ils peuvent venir me chercher ce soir, indépendamment de l'enlèvement de l'église. Vous êtes d'accord? Et il faudrait quand même que ça se passe bien, cette affaire. Et que nous nous mettions en tête, mais dans quel cas de figure je suis? Est-ce que je suis un rétrograde tout en n'ayant jamais quitté l'église? Quelle est la communion que j'ai avec mes frères? Et même mes frères qui sont partis? Ou est-ce que je dis après tout, mais s'ils avaient aimé le Seigneur, ils ne seraient jamais partis? C'est facile de critiquer. La mentalité d'esclave, est-ce que j'en fais assez? Vous savez, on l'a tous eu ça, non? Est-ce que j'en fais assez? Tous, on est passé par là, plus ou moins tous un peu. Est-ce que j'en fais assez pour lui plaire? Est-ce que je travaille bien? Même moi le premier. Je vous le dis, je ne vais pas jeter la pierre à personne. Hein. Moi, je suis tombé dans ce piège. En plus, les gens souvent nous mettent la pression dans l'église. Il y a la pression de l'église qui existe. Vous vous direz non, mais ça existe, la pression de l'église. Moi, j'ai vu des gens, des anciens, des pasteurs, mettre la pression à des jeunes. Hein, ça fait 6 mois que vous vous fréquentez, et bien ça serait temps que vous vous mariez, le témoignage. On met la pression aux gens? Oui ou non? Ouais, c'est pas intelligent, ça. Est-ce que l'on pense que l'on est aimé en fonction de ce que l'on fait, ou est-ce qu'on est aimé parce que Dieu nous aime? Seigneur, tu m'aimes, et je vais faire ce que je dois faire, et je le ferai avec cœur, parce que j'hériterai de la grâce divine. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Il ne faut pas... Bien sûr que tout ça rentre en ligne de compte, les œuvres et les échecs, les succès tiens. Comment me comporter quand j'ai un échec? Comment me comporter quand j'ai un succès? Comment vous faites quand vous avez un échec? Est-ce que vous vous lamentez? On est malheureux quand on a un échec, oui ou non? Il ne faut pas se lamenter à cause des échecs, de la même manière qu'il ne faut pas s'enorgueillir à cause de ses succès. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus a donné cette parabole? Parce qu'on ne va pas y tourner 2 heures. Mais pourquoi Jésus a donné cette parabole? Jésus nous a donné cette parabole pour nous rappeler que Dieu est amour. Et que nous aussi, notre témoignage sera efficace, d'autant plus, d'ailleurs il a dit Jésus, c'est à l'amour que vous aurez pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Les 4 fois, je crois, dans le Nouveau Testament où il est parlé vraiment des disciples, le 4e pilier, c'est celui-ci. C'est vraiment, le monde saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez pour les autres. Alors donne-moi, Seigneur, de développer cet amour. La religion, vous avez vu les pharisiens, parce que je vous assure, c'était une religion de pointe. Et elle fait naître cet orgueil. Les gens, mais on l'a vu, moi je l'ai vu, moi j'en ai honte, je vous assure. Ah, mais les telles dénominations, mais ils ne parlent pas en langue, ils n'observent pas la parole. Ils sont en dessous, quoi, bien sûr. Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Sérieusement. Une fois même, j'ai entendu dans un rassemblement quelqu'un qui a dit, mais c'était vraiment intelligent. C'est pas de notre faute si on est les meilleurs. Presque tout le monde a ri. Moi, ça ne m'a pas fait rire beaucoup. Parce que c'est ça l'esprit pharisien. Cet esprit qui consiste à nous faire croire que plus on en fait, que plus on en donne, et bien mieux on est apprécié de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est la vie. Il est la source de la vie. Et c'est vrai, comme Jonathan le rappelait dans la présentation de la Sainte-Seine, tout ce que vous regardez, c'est de la nourriture. Et ça se transforme un jour en action. C'est évident, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous regardez que des trucs sentimentaux machin à la télé, vous deviendriez des gens sentimentaux machin. Si vous regardez de la violence à la télé, croyez-moi, la violence ressortira un jour dans votre cœur. Etc. Etc. Et si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, c'est vrai, comment un morceau de pain se transforme en globule rouge et en globule blanc? Qui c'est qui peut me l'expliquer? C'est compliqué. Comment? Un docteur? Oui. Vous pourriez me l'expliquer, Jonathan? Vous pourriez me l'expliquer? Bon, merci. Eh bien, vous pourrez apporter une explication aussi. La religion, c'est vrai que la religion, on pourrait parler, le côté positif de la religion, ça change un peu la conduite des gens. mais ça ne change pas le cœur. C'est vrai que la religion dit « tu ne mens pas, tu ne mentiras pas ». Bon, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne mens plus. C'est sûr que je ne mens plus. Ça me fatigue, mais je ne mens plus. Et c'est vrai que quand on se convertit, on nous dit, tu sais, il est écrit, écoutez-moi bien mes frères, comment, c'est quoi le levain des pharisiens? Alors que, bon, je termine avec le mensonge. Est-ce qu'on peut mentir au fait? Est-ce qu'on peut mentir? Mais si on peut. Est-ce que je peux mentir? Ouais, je t'aime bien. Voilà. Est-ce qu'on peut mentir? On peut mentir, mais c'est une grâce de ne pas mentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, un jour, on m'a dit, mais tu te rends compte, t'es chrétien, tu ne peux plus mentir. Je dis, mais si, je peux mentir. Mais c'est une grâce pour moi de ne pas mentir. Ce n'est pas une loi. Et c'est vrai que l'esprit pharisien, c'est ça. Tu sais, tu es chrétien maintenant. Ah, monsieur Piette, vous êtes chrétien. Ah, maintenant que vous êtes chrétien, vous savez, il est écrit, il faut prier sans cesse, monsieur Piette. Et on met un joug sur les gens. Mais c'est vrai qu'il faut prier sans cesse. C'est vrai que c'est un état d'esprit, la communion avec Dieu, vous comprenez bien. Mais si on peut mettre un joug sur les gens. Moi, on l'a eu fait, moi, je l'ai fait à ma femme. Et à mes enfants. Et je le sais. On peut mettre un joug sur les gens. Christ est notre vie. Et il faut que tout ce qui découle soit le résultat de cette vie. C'est une grâce d'appartenir au Seigneur. Vous le croyez que c'est une grâce? C'est une grâce. Bien sûr que la prière, c'est des combats, la prière, c'est des rafraîchissements. Mais quand Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, mais c'est pour expliquer que Dieu veut qu'on ait la victoire. C'est pas pour nous mettre la pression. Et la religion, c'est ça, ça nous met la pression. Il faut que j'en fasse plus et il faut que j'en fasse davantage. Non. Lisez le livre des Galates. On va juste terminer avec un verset archi sévère. Méditez l'épître. Franchement, j'aurais aimé, mais ça va faire beaucoup. J'aurais aimé expliquer vraiment quand Paul s'oppose à Pierre dans les Galates. Vous le lirez, s'il vous plaît. Demandez au Seigneur qu'il vous éclaire lorsque vous lisez. Peut-être cette semaine, relisez le livre des Galates. Moi, je l'ai lu ce matin, je l'ai lu, ce livre, en entier, parce que j'avais besoin d'avoir une pensée générale. Et on voit que Paul s'oppose à Pierre et qu'il lui parle d'hypocrisie. On le voit. C'est au verset 2. Vous voyez quand même, c'est... Paul, il s'est opposé. À des moments, c'est important de savoir s'opposer pour faire sortir quelqu'un justement de ce levain, de cette hypocrisie. Voyez au verset 13 du chapitre 2. Voilà, je synthétise au maximum. Mais avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut même entraîné par leur hypocrisie. Voyez cette affaire de légalisme, c'était de l'hypocrisie. Et regardez après. Alors le verset, moi, qui m'a beaucoup, 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 beaucoup interpellé. Dans cette affaire, la conclusion, et là ça ne peut pas être plus clair, Paul dit ceci, 5-4, regardez bien, c'est quand même intéressant de comprendre. Regardez ce qu'il leur dit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et le fils aîné, il était déchu de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il certait la justification par le travail. Plus de travail, plus de travail. Et le résultat, quand une situation s'est présentée, la colère s'est manifestée. Ça a révélé quel était son cœur. Vous comprenez pourquoi Jésus leur recommanda avec soin de prendre soin du levain des pharisiens, mes frères et sœurs. Par contre, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, demandez à Dieu ce que vous avez à faire pour lui. S'il vous plaît. J'ai souvent insisté là-dessus. Ce n'est pas le but de la prédication. Le but de la prédication, c'est que nous ne devenions pas des pharisiens. Et que la Bible ne devienne pas un levain qui va étouffer l'Église. Mais que tous les commandements de Dieu soient des bénédictions. Je termine, ce n'était pas du tout comme ça que je voulais terminer ma prédication. Mais je vous le dis sincèrement, il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui sont en vrac spirituellement. Parce que ceux qui ne font pas valoir le talent, ils vont avoir de sérieuses difficultés. C'est la preuve qu'ils n'ont pas de communion en vérité. Alors demandons au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que mon frère, ma sœur, réponds à Dieu, pas à moi. Est-ce que c'est important que tu saches ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que c'est important? Même si c'est une visite par semaine. Une visite par semaine. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Alors on va demander de l'aide au Seigneur. Afin qu'en tous les cas, dans l'assemblée où Dieu nous a placés, il n'y ait pas l'orgueil du pharisiaïsme, mais qu'il y ait la grâce de l'humilité. Que l'on sache accueillir, que l'on sache se réjouir. Et que jamais, jamais, au grand jamais, nous ne nous comparions à quelqu'un. Jamais. Notre Père, je ne sais pas, on ne sait pas quelle intonation tu as utilisée lorsque tu as donné cette parabole à ces pharisiens et aux apôtres et aux disciples qui étaient là. Combien nous aimerions le savoir, Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que tu l'as fait, tu l'as certainement prononcé avec beaucoup d'amour pour les disciples, les scribes, les publicains et les pharisiens qui étaient là. Seigneur, bientôt nous allons comparaître devant toi. Seigneur, ce n'est pas dans la colère que nous voulons être, c'est dans la reconnaissance. Et si tu nous appelles, Seigneur, dans la grande ferme à faire telle ou telle chose, nous voulons le faire comme étant des héritiers qui recevront un jour les récompenses promises à ceux qui auront servi de tout leur cœur. Donne-nous ce cœur plein de compassion, Seigneur. Donne-nous ce discernement, déjà dans le cadre de nos foyers, pour discerner ces moments où nous sommes abattus ou en colère entre nous, Seigneur. Que nous ne nous méprisions pas, mais que nous sachions vraiment nous aimer et prouver au monde que nous sommes tes disciples. Vraiment, Seigneur, aide-nous à développer cette mentalité de fils et pas d'esclave. Que dans l'Église, dans cette Église où tu nous as placés, puisque c'est toi qui nous y as placés, Seigneur, nous développions cette mentalité d'enfant et de serviteur fidèle. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour la réunion de cet après-midi. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.